Le gouvernement d'exemple, qui ne fait pas attention aux principes de ces exemples, est le plus vil système que l'on puisse inventer. Dans une multitude de cas, l'exemple passé doit servir d'avertissement et non pas de règle, et a besoin d'être évité plutôt qu'imité. Mais au lieu de cela, les faits précédents sont pris en masse et donnés pour la Constitution et les lois. Où la doctrine des exemples précédents est une politique pour tenir l'homme dans un état d'ignorance, où c'est un aveu pratique que la sagesse dégénère dans les gouvernements à mesure qu'ils vieillissent, et qu'ils ne peuvent se traîner que sur les échasses ou sur les béquilles des exemples. Comment arrive-t-il que les personnes qui ont la présomption de vouloir passer pour plus habiles que leurs prédécesseurs ne paraissent en même temps que comme les spectres de la sagesse passée? Que l'Antiquité est singulièrement traitée. Pour remplir quelques vues, on en parle comme d'un temps de ténèbres et d'ignorance, et pour en remplir d'autres, on la fait passer pour la lumière du monde. Si l'on veut suivre la doctrine des exemples, les dépenses du gouvernement ne doivent plus être les mêmes. Pourquoi payer des gens extraordinairement, puisqu'ils n'ont presque rien à faire? Si tout ce qui peut arriver est déjà arrivé, il ne faut plus de législation, et l'exemple, comme un dictionnaire, doit terminer tous les cas. Donc, où le gouvernement est dans l'âge de la décrépitude et a besoin d'être renouvelé, où toutes les occasions d'exercer sa sagesse sont déjà arrivées. On voit maintenant dans toute l'Europe, et particulièrement en Angleterre, le phénomène curieux d'une nation qui regarde d'un côté et d'un gouvernement qui regarde de l'autre, l'un en avant et l'autre en arrière. Si les gouvernements ne se conduisent que par des exemples antérieurs, tandis que les nations font des progrès en avant, il faut finalement qu'ils se séparent. Et plus cette séparation sera prompte, et plus on y mettra de politesse de part et d'autre, plus cela sera avantageux. Après avoir ainsi parlé des constitutions en général, comme de choses différentes des gouvernements actuels, passons à la considération des partis dont une constitution est composée. Les opinions sont plutôt partagées sur ces partis que sur le tout. Tout le monde conviendra, à moins qu'il ne soit courtisan fieffé, qu'une nation doit avoir une constitution pour servir de règle de conduite à son gouvernement. Ce n'est que sur les partis dont elle doit être composée que les questions et les opinions se multiplient. Mais cette difficulté, comme toutes les autres, diminuera lorsqu'elle sera présentée de manière à être justement comprise. La première chose, c'est qu'une nation a droit d'établir une constitution. Savoir si elle exerce d'abord ce droit de la manière la plus judicieuse, c'est une autre affaire. Elle l'exerce selon le jugement qu'elle possède, et en continuant d'agir ainsi, toutes les erreurs seront finalement extirpées. Quand ce droit est établi chez une nation, il n'y a plus à craindre qu'il soit jamais employé pour lui nuire. Une nation n'a aucun intérêt à avoir tort. Quoique toutes les constitutions de l'Amérique soient fondées sur un principe général, cependant il n'y en a pas deux qui soient parfaitement semblables dans les parties qui les composent, ou dans la distribution du pouvoir qu'ils donnent aux gouvernements actuels. Elles sont plus ou moins compliquées. En faisant une constitution, il faut premièrement considérer les fins pour lesquelles le gouvernement est nécessaire. Secondement, quels sont les meilleurs moyens et les moins dispendieux pour obtenir ces fins. Le gouvernement n'est autre chose qu'une association nationale, et l'objet de cette association est le bien de tous, tant individuellement que collectivement. Chacun désire suivre ses occupations et jouir du fruit de son travail et du produit de ses propriétés, paisiblement et sûrement, avec le moins de dépenses possible. Quand cela est accompli, toutes les fins pour lesquelles le gouvernement doit être établi sont remplies. On a ordinairement considéré le gouvernement comme composé de trois parties générales et distinctes, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du judiciaire. Mais si nous voulons permettre à notre jugement d'agir sans être prévenu par l'habitude d'une multiplication de termes, nous ne pourrons apercevoir que deux pouvoirs qui entrent dans la composition du gouvernement civil, savoir celui de faire et de publier des lois et celui de les exécuter et de les administrer. Donc, tout ce qui appartient au gouvernement civil est classé dans l'une ou dans l'autre de ces deux divisions. Quant à ce qui regarde l'exécution des lois, ce que l'on appelle pouvoir judiciaire est strictement le pouvoir exécutif de tous les pays. C'est ce pouvoir auquel tout individu appelle et qui fait exécuter les lois. Et nous n'avons pas d'autre idée claire de l'exécution officielle des lois. En Angleterre et en Amérique, comme en France, ce pouvoir commence avec le magistrat et passe par toutes les cours de judicature. Je voudrais que les courtisans expliquassent ce que l'on veut dire en appelant la monarchie le pouvoir exécutif. Ce n'est qu'un nom qui sert à faire des actes du gouvernement, et tout autre nom, ou même point de nom du tout, serait la même chose. Les lois n'en ont pas pour cela plus ou moins d'autorité. Ce doit être de la justice de leurs principes et de l'intérêt que la nation trouve à les maintenir qu'elles doivent tirer leur force. Si elles ont besoin d'un autre appui, c'est signe qu'il y a quelque chose d'imparfait dans le système du gouvernement. Les lois difficiles à exécuter ne sauraient être généralement bonnes. Quant à l'organisation du pouvoir législatif, on a, dans différents pays, adopté différentes méthodes. En Amérique, il est généralement composé de deux chambres. En France, il n'en fait qu'une, mais dans les deux pays, il est représentatif. Le fait est que les hommes, à cause de la longue tyrannie des pouvoirs usurpés, ont eu si peu d'occasion de faire les essais nécessaires sur les méthodes et les principes du gouvernement pour découvrir le meilleur, que ce n'est que d'aujourd'hui qu'on commence à connaître le gouvernement et qu'il manque encore d'expérience pour décider de plusieurs particularités. Les objections contre deux chambres sont, premièrement, qu'il y a de l'inconséquence qu'une partie de la législature en vienne à une détermination finale sur une question, tandis que cette question, par rapport à la totalité, est encore en délibération et conséquemment susceptible d'être mieux approfondie. Secondement, qu'en prenant les voix dans chacune, comme dans un corps séparé, il est toujours possible, et cela arrive souvent, que la minorité gouverne la majorité, et presque toujours d'une manière très inconséquente. Que deux chambres qui peuvent se contrôler arbitrairement sont absurdes, parce qu'on ne saurait prouver, selon les principes d'une juste représentation, que l'une soit plus sage ou meilleure que l'autre. Elles peuvent se contrôler à tort comme avec raison, et que placer le pouvoir où nous ne pouvons pas placer la sagesse pour en user, ni même être assuré qu'on en usera comme il faut, c'est confier autant au hasard qu'à la précaution. Si on apportait dans aucune des législatures américaines un bill semblable à celui dont le Parlement d'Angleterre fit un acte au commencement du règne de George Ier pour étendre la durée des assemblées à une plus longue époque que celle qui leur est assignée, le contrôle se trouverait dans la Constitution qui dit « Tu iras jusque-là, mais pas plus loin ». Mais pour résoudre l'objection contre une seule chambre, celle d'agir trop précipitamment, et pour éviter en même temps les inconséquences et quelquefois les absurdités qui résultent de deux chambres, la méthode suivante a été proposée comme une amélioration des deux systèmes. Premièrement, de n'avoir qu'une représentation. Secondement, de diviser cette représentation par la voie du sort en deux ou trois sections. Troisièmement, de discuter tout bill proposé dans chaque section successivement, afin qu'elles puissent réciproquement entendre les arguments l'une de l'autre, mais sans aller aux voix. Après cela, toute la représentation s'assemblerait pour une discussion générale qui produirait une détermination en allant aux voix. À ce projet d'amélioration, on en a ajouté un autre pour tenir toujours la représentation dans un état de renouvellement, qui est qu'un tiers de la représentation d'un pays se retirerait au bout d'un an et que ce nombre serait remplacé par de nouvelles élections. Un autre tiers serait de même remplacé au bout de deux ans et tous les trois ans il y aurait une élection générale. Mais de quelque manière que l'on puisse arranger les différentes parties d'une constitution, il y a un principe général qui distingue la liberté d'avec l'esclavage, qui est que tout gouvernement héréditaire sur un peuple est une espèce d'esclavage et que tout gouvernement représentatif est libre. En considérant le gouvernement sous le seul point de vue que l'on doit le considérer, celui d'une association nationale, il doit être organisé de manière à ne point être dérangé par les accidents qui peuvent arriver à aucune de ses parties. C'est pourquoi on ne doit placer entre les mains d'aucun individu un pouvoir extraordinaire capable de produire un pareil effet. La mort, les maladies, l'absence ou la défection d'un individu dans un gouvernement doivent être d'aussi peu de conséquences par rapport à la nation que si les mêmes accidents étaient arrivés à un membre du Parlement d'Angleterre ou de l'Assemblée nationale de France. Il n'y a rien de plus avilissant pour la grandeur d'une nation que d'être mise en confusion par ce qui peut arriver à un simple individu ou par ce qu'il peut faire. Et le ridicule de cette scène est souvent augmenté par le peu d'importance de la personne qui l'a occasionnée. Si un gouvernement était tellement construit qu'il ne put aller à moins qu'une loi ne fût présente au Sénat, les difficultés seraient tout aussi grandes et aussi réelles par la suite ou par la maladie de loi que si on l'appelait roi. Nous nous moquons des particuliers à cause des folles difficultés qu'ils se font à eux-mêmes, sans nous apercevoir que l'on commet tous les jours les plus grandes absurdités dans les gouvernements. Toutes les constitutions de l'Amérique sont faites sur un plan qui n'admet point les embarras puérils qui se rencontrent dans les monarchies. Il ne peut y avoir une suspension de gouvernement, même pour un seul instant, par aucune circonstance quelconque. Le système de représentation pourvoit à tout, et est le seul système dans lequel les nations et les gouvernements peuvent toujours paraître avec le caractère qui leur est propre. Comme on ne doit placer aucun pouvoir extraordinaire entre les mains d'aucun individu, on ne doit pas non plus accorder à qui que ce soit un salaire plus considérable que ses services ne le méritent. Il est peu important qu'un homme soit appelé président, roi, empereur, sénateur, ou de toute autre manière que la convenance ou la folie le juge à propos, ou que l'arrogance peut s'arroger. Il est certain qu'il ne peut rendre que quelques services à l'État. Et les services d'un pareil individu, dans la routine des fonctions, quel que soit le nom que l'on donne à cette fonction, soit qu'on l'appelle monarchique, présidentielle ou sénatoriale, ou comme l'on voudra, ne doit pas valoir plus de 10 000 livres sterling, 240 000 livres tournois par an. Tous les grands services rendus au monde le sont par des volontaires qui n'acceptent rien. Mais la routine des fonctions est toujours réglée selon une donnée générale de talent, et il est toujours au pouvoir d'un grand nombre de citoyens de les remplir. C'est pourquoi elle ne mérite point de récompense extraordinaire. Le gouvernement, dit Swift, est une chose simple et que bien des gens sont capables de comprendre. Il est inhumain de parler de 24 millions tournois annuellement tirés des impôts d'un pays quelconque pour le soutien d'un simple individu, tandis que des milliers d'êtres qui sont obligés d'y contribuer meurent de faim et luttent contre la misère. Le gouvernement ne consiste pas en un contraste entre des prisons et des palais, entre la pauvreté et la pompe. Il n'est pas institué pour dépouiller le malheureux de son denier, ni pour augmenter la misère du pauvre. Mais je reviendrai par la suite sur ce sujet. Actuellement, je vais me renfermer dans des observations politiques. Quand un pouvoir extraordinaire et un salaire extraordinaire sont accordés à un individu dans un gouvernement, il devient le centre autour duquel toutes les espèces de corruption s'engendrent. Donner à tout homme quelconque 24 millions par an et ajoutez à cela le pouvoir de créer des places et d'en disposer aux dépens d'un pays, et la liberté de ce pays n'est plus en sûreté. Ce que l'on appelle la splendeur du trône n'est autre chose que la corruption de l'État. Elle est composée d'une bande de parasites qui vivent dans une indolence luxurieuse d'une partie des taxes publiques. Quand une fois un système aussi vicieux est établi, il devient le gardien et la protection de tous les abus inférieurs. L'homme qui reçoit 24 millions de livres annuellement est la dernière personne à susciter un esprit de réforme, de peur qu'éventuellement il ne l'atteigne lui-même. Il est toujours de son intérêt de protéger les petits abus comme autant de postes avancés pour protéger la citadelle. Et dans cette espèce de forteresse politique, toutes les parties dépendent tellement les unes des autres qu'on ne doit jamais s'attendre qu'elles s'attaquent. La monarchie n'aurait pas duré tant de siècles si ce n'était pour les abus qu'elle protège. C'est la fraude en chef qui soutient toutes les autres. En donnant une partie des dépouilles, elle se fait des amis, et quand elle cessera de le faire, elle cessera d'être l'idole des courtisans. Comme le principe selon lequel les constitutions sont actuellement formées rejette toute prétention héréditaire au gouvernement, il rejette aussi tout ce catalogue d'usurpations appelées prérogatives. S'il existe un gouvernement où l'on puisse, avec quelque sorte de sûreté, accorder des prérogatives à un individu, c'est certainement dans le gouvernement fédératif de l'Amérique. Le président des États-Unis de l'Amérique n'est élu que pour 4 ans. Il est non seulement responsable dans le sens général du mot, mais il y a dans la Constitution une méthode particulière tracée pour l'éprouver. Il ne peut être élu qu'à 35 ans, et il faut qu'il soit né dans le pays. En comparant ces circonstances avec le gouvernement d'Angleterre, la différence par rapport à ce dernier est une absurdité. En Angleterre, l'homme qui exerce la prérogative royale est souvent un étranger, toujours à moitié étranger et toujours marié avec une étrangère. Il n'est jamais entièrement lié avec le pays, ni naturellement ni politiquement. Il n'est responsable de rien et est majeur à 18 ans. Cependant, on permet à cette personne de former des alliances étrangères sans même la connaissance de la nation et de faire la guerre et la paix sans son consentement. Mais cela n'est pas tout. Quoique cette personne ne puisse pas disposer du gouvernement comme un testateur, elle dicte les mariages, ce qui dans le fait répond presque au même but. Il ne peut pas léguer directement la moitié du gouvernement à la Prusse, mais il peut former une alliance qui produira presque la même chose. Dans de pareilles circonstances, il est heureux pour l'Angleterre qu'elle ne soit pas située sur le continent, où elle pourrait, comme la Hollande, tomber sous la dictature de la Prusse. La Hollande, par l'alliance du Statuder, est aussi efficacement gouvernée par la Prusse que si l'ancienne tyrannie de léguer le gouvernement l'avait mise en son pouvoir. La présidence en Amérique, ou comme on l'appelle quelquefois la fonction exécutive, est la seule place à laquelle un étranger ne saurait parvenir. Et en Angleterre, c'est la seule où il soit admis. Un étranger ne peut être membre du Parlement, mais il peut être ce que l'on appelle un roi. S'il n'existe aucune raison pour exclure les étrangers, ce doit certainement être des places où ils peuvent faire le plus de mal, et où, en réunissant toutes les raisons d'intérêt et d'attachement, le dépôt devient plus sûr. Mais à mesure que les nations feront des progrès dans la grande affaire de former des constitutions, elles examineront avec plus de précision la nature et les occupations du département que l'on appelle l'exécutif. Tout le monde peut voir ce que sont les départements législatifs et judiciaires. Mais quant à ce qui s'appelle en Europe l'exécutif, comme séparé des deux autres, ou c'est une superfluité, ou c'est un chaos de choses inconnues. Il faut quelques départements officiels auxquels on puisse faire des rapports des différentes parties d'une nation ou de chez l'étranger, et c'est tout ce qui est nécessaire. Mais il est inconséquent d'appeler ce département exécutif. On ne saurait non plus le considérer que comme inférieur au pouvoir législatif. L'autorité souveraine dans tous les pays est le pouvoir de faire des lois et tout le reste est un département officiel. Après l'arrangement des principes et l'organisation des différentes parties d'une constitution, il faut pourvoir aux appointements des personnes auxquelles la nation confie l'administration des pouvoirs constitués. Une nation n'a pas droit de disposer du temps et des services de qui que ce soit sans lui accorder une indemnité, quelle que soit la fonction qu'il lui plaise de lui confier, et il n'y a pas de raison non plus pour faire des provisions pour le soutien d'une partie du gouvernement et point pour les autres. Mais, en admettant que l'honneur d'obtenir l'administration d'une partie du gouvernement doive être une récompense suffisante, cela devrait être égal pour tout le monde. Si les membres de la législature d'aucun pays doivent servir à leurs dépens, ce que l'on appelle pouvoir exécutif, soit qu'il soit monarchique ou autrement, doit faire de même. Il est inconséquent de payer l'un et d'accepter le service des autres gratis. En Amérique, on a pourvu honnêtement à chaque département du gouvernement, mais personne ne reçoit de salaire exorbitant. Chaque membre du Congrès et des assemblées reçoit une somme suffisante pour payer ses dépenses. Au lieu qu'en Angleterre, on a pourvu d'une manière extravagante au soutien d'une partie du gouvernement et pas à l'autre. Il s'ensuit que l'une a en main des moyens de corruption et que l'autre est dans le cas de se laisser corrompre. Il ne faudrait pas un quart de cette dépense employée de la manière dont on le fait en Amérique pour remédier à une grande partie de la corruption. Une autre réforme que l'on a faite dans les coutumes américaines, c'est de ne plus faire prêter serment à telle ou telle personne. Le serment de fidélité en Amérique ne se prête qu'à la nation seule. Il est absurde de mettre aucun individu en la place de la nation. Le bonheur d'une nation est l'objet supérieur. C'est pourquoi l'intention d'un serment de fidélité ne doit pas être obscurcie en le prêtant figurativement à elle ou au nom de telle personne. Le serment que l'on appelle en France serment civique, savoir la nation, la loi et le roi, est inconséquent. Si on veut le prêter, il faut le prêter comme en Amérique à la nation seule. la loi peut être ou ne pas être bonne. Mais ici, elle ne saurait avoir d'autre signification que celle d'être utile au bonheur de la nation. Conséquemment, elle est comprise dans le serment. Le reste du serment est inconséquent parce que tout serment personnel doit être aboli. Ce sont d'une part les restes de la tyrannie et de l'autre ceux de l'esclavage. Et on ne doit pas prendre le nom du Créateur pour servir de témoin à la dégradation de sa création. Ou si on prête ce serment, comme nous l'avons déjà observé, figurativement à la nation, c'est ici une redondance. Mais quelque apologie que l'on puisse faire pour les serments, au premier établissement d'un gouvernement, on ne doit pas ensuite les permettre. Si un gouvernement a besoin de l'appui des serments, c'est signe qu'il ne vaut pas la peine d'être soutenu, et il ne doit pas être soutenu. Faites le gouvernement tel qu'il doit être, et il se soutiendra lui-même. Pour conclure cette partie du sujet, l'une des plus grandes améliorations que l'on ait faites pour la sûreté personnelle et pour les progrès de la liberté constitutionnelle, ce sont les provisions que font les nouvelles constitutions pour être de temps en temps révisées, altérées ou amendées. Le principe sur lequel M. Burke a fondé sa profession de foi politique, celui de lier et de contrôler la postérité à jamais et d'abdiquer les droits de la postérité pour toujours, est devenu maintenant trop détestable pour faire un sujet de discussion. C'est pourquoi je ne m'y arrête pas, je me contente de le citer. On ne fait que commencer à connaître le gouvernement. Jusqu'ici, ce n'avait été qu'un simple exercice de pouvoir qui défendait de faire aucune recherche dans les droits et qui s'appuyait uniquement sur la possession. Tant que l'ennemi de la liberté fut juge de cette dernière, les progrès de ses principes doivent vraiment avoir été peu considérables. Les constitutions de l'Amérique, ainsi que celles de France, ont ou fixé des époques pour leur révision, ou indiqué une méthode par laquelle on peut faire des améliorations. Il est peut-être impossible d'établir aucune chose réunissant une combinaison de principes, d'opinions et de pratiques que les progrès des circonstances, après une longue suite d'années, ne dérangent pas en quelque sorte ou ne rendent pas inconséquentes. C'est pourquoi, pour empêcher que les inconvénients ne s'accumulent au point de décourager les réformes ou d'exciter des révolutions, il vaut mieux pourvoir aux moyens d'y remédier à mesure qu'ils se présentent. Les droits de l'homme sont les droits de toutes les générations d'hommes et ne sauraient être accaparés par aucune. Ce qui mérite d'être suivi sera suivi à cause de son mérite. Et c'est en cela que gît sa sûreté et non pas dans les conditions dont on peut le charger. Quand un homme laisse du bien à ses héritiers, il n'y joint pas la condition qu'ils l'accepteront. Pourquoi ferions-nous autrement par rapport aux constitutions? La meilleure constitution que l'on pourrait faire aujourd'hui serait peut-être fort éloignée de la perfection que quelques années peuvent produire. L'homme vient d'apercevoir une aurore de raison sur le sujet du gouvernement qui n'avait pas encore paru. Comme la barbarie des anciens gouvernements est sur le point d'expirer, la condition morale des nations, selon les rapports qu'elles ont entre elles, va aussi changer. L'homme ne sera plus élevé dans l'idée sauvage de regarder ses semblables comme ses ennemis, parce que le hasard de la naissance a placé les individus dans des pays qui portent des noms différents. Et comme les constitutions ont toujours quelque rapport aux circonstances étrangères, comme aux circonstances domestiques, le moyen de profiter de tous les changements étrangers ou domestiques devrait faire partie de toutes les constitutions. Nous voyons déjà un changement dans les dispositions des Anglais et des Français les uns envers les autres, ce qui, si nous remontons à quelques années antérieures, fait déjà une révolution. Qui aurait pu prévoir, ou qui aurait pu croire, qu'une Assemblée nationale de France deviendrait un jour un objet de toast populaire en Angleterre, ou qu'une alliance amicale serait jamais le souhait des deux nations? Cela démontre que l'homme, s'il n'était pas corrompu par les gouvernements, est naturellement ami de l'homme et que la nature humaine n'est pas par elle-même vicieuse. Cet esprit de jalousie et de férocité qu'inspiraient les gouvernements des deux pays et qu'ils faisaient servir à leur vue de maître des impôts cède aujourd'hui aux suggestions de la raison, de l'intérêt et de l'humanité. On commence à comprendre le métier des cours, l'affectation du mystère et tous les sortilèges artificiels par lesquels elles en imposaient au genre humain, sont sur le déclin. Ils ont reçu un coup mortel, et quoi qu'ils puissent encore languir quelque temps, ils ne tarderont pas à expirer. Le gouvernement doit être aussi ouvert à l'amélioration que tout ce qui appartient à l'homme. Au lieu de cela, il a, de siècle en siècle, été accaparé par les plus ignorants et les plus vicieux de l'espèce humaine. Avons-nous besoin d'autres preuves de leur pitoyable administration que ce poids de dettes et de taxes sous lesquelles les nations gémissent et les querelles dans lesquelles ils ont précipité le monde? Ne faisant que sortir d'une condition aussi barbare, il est encore trop tôt de pouvoir déterminer jusqu'à quel degré d'amélioration on peut porter le gouvernement. Autant que nous pouvons le prévoir, toute l'Europe pourra former une grande république et l'homme être partout citoyen.